L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après la rediffusion la semaine passée de la chronique consacrée à ma passion pour les voyages, je vais aujourd'hui vous parler d'un personnage public et non d'un territoire. Homme d'État qui a arpenté les couloirs du pouvoir français pendant plus de 40 ans, il a tiré sa révérence la semaine dernière. Incarnation du bon vivant qui aimait serrer les mains, distribuer bises et accolades, tout en prenant des nouvelles de la grand-mère et de l'oncle Alphonse. Véritable rockstar du salon de l'agriculture, ses imitateurs avaient pour habitude de dire que même les agneaux l'appelaient par son prénom. Sur la scène internationale, son principal fait d'armes aura été de tenir tête à l'administration américaine au moment de l'invasion de l'Irak en 2003. Vous l'aurez certainement deviné, la chronique de cette semaine sera consacrée à la disparition et au retour sur la carrière de Jacques Chirac. Jacques Chirac, la disparition d'un animal politique, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, une vie entière dans les coulisses du pouvoir. Je ne retracerai pas ici dans le détail la biographie de Jacques Chirac. Dès la fin de ses études, et après avoir servi en Algérie, il est nommé auditeur à la Cour des comptes avant de rejoindre le cabinet du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. Il ne servira que peu de temps dans l'administration, puisqu'il embrassera très vite la carrière politique. Dès 1965, il est élu au conseil municipal de la commune de Sainte-Féréole en Corrèze. Une partie de sa famille maternelle est originaire de cette région. Il conservera un attachement tout particulier à cette terre corrézienne qu'il aura arpenté de long en large. Le musée dédié à ses deux mandats présidentiels se trouve d'ailleurs à Saran, en Corrèze. Nommé en 1967 secrétaire d'État à l'emploi, il entame son parcours de bulldozer qui le mènera au sommet du pouvoir. Son élection à la présidence de la République en 1995 reste l'un de ses plus grands coups politiques. Il effectuera une spectaculaire remontée dans les sondages alors qu'il était donné largement battu par Édouard Balladur. Au moment où les hommages pleuvent, les observateurs sont nombreux à s'accorder sur le fait que Jacques Chirac était plus intéressé par la conquête du pouvoir que par l'exercice du pouvoir en lui-même. Un amoureux des arts premiers. Jacques Chirac aimait cultiver son côté franchouillard et manier un langage de corps de garde. Il cachait, derrière cette façade, une vaste culture générale et une passion pour l'histoire des civilisations. Jacques Chirac avait notamment une appétence pour les arts premiers. Pendant des décennies, cette passion a été tenue secrète. À l'âge de 21 ans, Jacques Chirac a effectué un voyage au Japon et c'est à partir de ce moment-là qu'il a développé un lien tout particulier avec cette partie du monde. Le grand public connaissait son intérêt prononcé pour les sumos qui avait fait l'objet de railleries de la part de Nicolas Sarkozy. En 1998, Jacques Chirac prononce un discours à l'université de Tokyo où il tient les propos suivants. « J'ai étudié vos mythes avec passion. J'ai été séduit par la virtuosité de vos potiers, par l'élégance de votre architecture, par l'harmonie de vos jardins, par le raffinement de votre théâtre, par la finesse de votre cuisine, par le rituel de vos lutteurs de sumo. » Son principal héritage dans ce domaine restera le musée du Quai Branly, dédié aux arts premiers. Cette passion pour les civilisations, comme l'art de la Papouasie, faisait ressortir chez lui un côté humaniste qui tranchait avec le cynisme de l'animal politique qu'il était. Il était particulièrement sensible à la question de la protection des Indiens d'Amérique. Par le biais de la culture, il a défendu l'importance du dialogue interculturel en étant proche, par exemple, de la prix Nobel de la paix guatémaltèque, Rigoberta Menchú. Jacques Chirac, un ami du monde arabe. Jacques Chirac n'aura pas vraiment laissé un bilan inoubliable en matière de politique étrangère, si ce n'est son opposition à l'invasion de l'Irak en 2003. Méfiant à l'égard d'Israël, comme l'atteste son célébrissime « What do you want me to take my plane ?» dans les rues de Jérusalem, il cultivait une vraie proximité avec nombre de dirigeants arabes. Yasser Arafat avait pour coutume de l'appeler le docteur. Jacques Chirac était proche du Liban, de la Syrie et de la Jordanie, et il restera affecté par la disparition de son ami libanais Rafik Hariri. On pourrait m'objecter qu'il a cultivé une relation de proximité avec des personnes peu fréquentables, comme Saddam Hussein, Abdelaziz Bouteflika ou Hosni Moubarak. Pragmatique dans l'âme, Jacques Chirac avait compris que la politique arabe en passait par là. Ce qui marque dans la façon dont agissait Jacques Chirac était le côté personnel ou affectif qui marquait son action internationale. Selon l'ancien ministre Hervé de Charette, rien ne le passionnait plus que d'aller au-devant des autres dirigeants du monde, de parler avec eux, de séduire, de créer des liens d'amitié. Jacques Chirac cherchait à apporter une voix apaisée dans les conflits du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les résultats peuvent paraître mitigés. Je m'intéresse aux questions géopolitiques depuis une douzaine d'années, et j'ai le sentiment que l'on peut parler d'un moment Chirac dans la politique arabe de la France. Nicolas Sarkozy, à son arrivée au pouvoir en 2007, a rompu avec cet héritage en menant une politique pro-israélienne et ultra-atlantiste. Le non à la guerre en Irak. Comme je l'ai dit précédemment, son principal fait d'armes en matière de politique étrangère restera son opposition au déclenchement de la guerre en Irak en 2003. L'administration américaine de l'époque, celle de George Walker Bush, souhaitait se débarrasser de Saddam Hussein, chose que l'administration de George Bush père avait échoué à faire. Afin de légitimer cette action, l'argument trouvé a été la détention d'armes de destruction massive. Il est vrai que Saddam Hussein avait déjà utilisé des armes chimiques contre son peuple. Les inspecteurs de l'AIEA, Agence internationale à l'énergie atomique, n'avaient pas réussi à trouver de preuves attestant de l'existence de ces armes de destruction massive. Ils n'avaient pas non plus, a priori, eu accès à l'ensemble des sites sensibles pour lesquels ils avaient des soupçons. Face à cette absence de preuves tangibles, la communauté internationale a commencé à faire part de ses réserves quant au bien fondé d'une action militaire. Les débats furent houleux dans l'enceinte du Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Colin Powell, avait fait trembler l'institution onusienne en brandissant une fiole en plastique prétendument remplie d'un produit chimique. Il s'agissait de prouver que Saddam Hussein détenait bel et bien un arsenal chimique. Face à l'émotion suscitée, Colin Powell avait fini par reconnaître que le flacon ne contenait que de la glycérine. Ce fut l'un des nombreux mensonges de cette affaire des armes de destruction massive. Les contre-vérités de l'administration américaine avaient conduit Jacques Chirac à ne pas suivre l'oncle Sam dans cette désastreuse épopée irakienne, quitte à s'attirer les foudres de Washington. Sa ferme opposition s'était exprimée par la voix du ministre des Affaires étrangères alors en poste, Dominique de Villepin, lors d'un discours devenu célèbre qui a été prononcé le 14 février 2003. En voici un extrait. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. La brouille entre la France et les États-Unis a duré quelque temps. L'arrivée de Barack Obama a contribué à réchauffer les relations des deux côtés de l'Atlantique. Jacques Chirac, lui, y a gagné un énorme capital sympathie dans les pays du monde arabe. Ainsi s'achève cette chronique dédiée à Jacques Chirac et à son action internationale. Je n'ai pas eu le temps d'aborder tous les sujets, mais j'ai retenu ceux qui me paraissaient essentiels. Jacques Chirac n'a pas eu qu'une casquette pacificatrice, puisqu'il n'a pas hésité à dépêcher des troupes françaises en Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre, ou un régiment d'infanterie de marine pour reprendre le pont de Vrebanja à l'armée de la République serbe de Bosnie. La reprise des essais nucléaires dans le Pacifique a aussi marqué son action. Sa conversion à l'écologie fut tardive et se manifesta par son cri d'alarme lors du sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Il était fortement diminué ces dernières années et il aurait été intéressant de voir son positionnement vis-à-vis des conclusions des derniers rapports du GIEC. À l'instar de Barack Obama, peut-être aurait-il reçu Greta Thunberg pour parler de son engagement et de sa lutte contre l'inaction des gouvernements face au changement climatique. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.